Chers amis, aujourd'hui nous allons nous détendre un petit peu en découvrant la vie de Saint-Hubert dont la fête est le 3 novembre. Il y a plusieurs Saint-Hubert et celui dont je vais vous parler est celui qui fut évêque de Liège et qui est devenu le saint patron de cette ville et de tous les chasseurs. De ce que fut la vie de Saint-Hubert avant son épiscopat, on connaît ce qui suit et qui est absolument certain. Hubert appartenait à la haute noblesse franque et fut le contemporain de Pépin de Herstalde et de Charles Martel, dont il était proche. Il se maria avec Floribane, fille du roi Dagobert, et eut un fils nommé Floribert. Après sa conversion, puis son veuvage, il devint prêtre. Vers 705, il succéda à Saint Lambert, évêque du diocèse de Tongres-Maestricht. Quant au reste, réalité et légende se mélangent. Par contre, après sa nomination à l'épiscopat, les faits retrouvés de sa vie sont authentiques. Nous savons donc que Saint-Hubert était probablement le fils d'un duc d'Aquitaine lié au roi mérovingien. Sa mère se serait appelée Hugberne ou Affre. Bien qu'il ait reçu une éducation chrétienne, Hubert aurait vécu, selon les chroniqueurs de l'époque, les folles joies de la vie mondaine. Il faut préciser qu'Hubert vivait à la cour, au temps des rois fainéants. De plus, il aimait passionnément la chasse. Cela dura jusqu'au jour où, raconte la légende, étant parti seul à la chasse un vendredi saint, il se retrouva soudain face à un cerf blanc portant une croix lumineuse entre ses bois. Hubert pourchassa le cerf pendant très longtemps, jusqu'au moment où l'animal s'arrêta, tandis qu'une voix venue du ciel disait « Hubert, Hubert, jusque à quand poursuivras-tu les bêtes dans les forêts? Jusque à quand cette vaine passion te fera-t-elle oublier le salut de ton âme ?» Épouvanté, Hubert se prosterna à terre et demanda « Seigneur, que faut-il que je fasse ?» La voix reprit « Va donc auprès de Lambert, mon évêque à Maestricht. Convertis-toi, fais pénitence de tes péchés, ainsi qu'il te sera enseigné. Voilà ce à quoi tu dois te résoudre pour n'être point damné dans l'éternité. Je te fais confiance, afin que mon église en ces régions sauvages soit par toi grandement fortifiée. » Et Hubert de répondre avec force et enthousiasme, « Merci, ô Seigneur, vous avez ma promesse, je ferai pénitence puisque vous le voulez. Je saurai en toute chose me montrer digne de vous. » Et Hubert devint le disciple de Saint Lambert. Il renonça aux honneurs militaires ainsi qu'à la succession de son père et commença une vie exemplaire. Ceci se passait aux alentours de 688. Puis, revêtu d'un simple costume de pèlerin, il alla jusqu'à Rome. Or, le pape Serge Ier, pape de 687 à 701, venait d'apprendre dans une vision l'assassinat de l'évêque Lambert, victime de son zèle pour la défense de la sainteté conjugale. Le pape reçut en même temps l'ordre de remplacer Lambert par le pèlerin qui arrivait juste à ce moment dans la basilique de Saint-Pierre pour y prier. Le pontife trouva l'humble pèlerin et lui fit connaître les ordres du ciel. Hubert, malgré sa frayeur et ses larmes, dut se soumettre à la volonté de Dieu. Nous sommes aux alentours de l'an 700. Voici pour nous détendre un peu quelques autres détails légendaires concernant la consécration de Saint-Hubert comme évêque. Les nombreux hagiographes de Saint-Hubert racontent, comme il refusait d'accepter le siège épiscopal proposé, que des anges lui apportèrent tous les ornements pontificaux de Saint-Lambert. Il n'y manquait que l'étole. La Sainte Vierge, patronne de l'église de Tongres, envoya par un ange une étole de soie blanche dans le tissu de laquelle il y avait un fil d'or. Ce fut avec ces ornements que Saint-Hubert fut sacré évêque. Comme tous ces détails ne devaient pas suffire à nos auteurs, l'un d'eux ajouta « Un jour, pendant qu'il célébrait la Sainte Messe, Saint-Pierre lui apparut et lui donna une clé quasi d'or » qu'il porterait comme symbole de son pouvoir spirituel et avec laquelle il guérirait les lunatiques et les furieux. Cette clé se conserve encore aujourd'hui dans l'église de Saint-Pierre à Liège. Enfin, pour être complet, l'auteur, qui serait Matthias de Lewis, ajouta « On rapporte que pendant que les obsèques de Saint-Lambert se célébraient à Maestricht, les assistants entendirent une voix du ciel qui leur disait que le pape venait de conférer le siège épiscopal au prêtre Hubert. Celui-ci partit de Rome avec la bénédiction du pape et fut reçu avec enthousiasme par le clergé et le peuple à Maestricht, où il apporta la crosse, les ornements et l'étole de Saint-Lambert avec la clé de Saint-Pierre. » Les légendes sont belles. Mais revenons maintenant à la réalité. Saint-Hubert fut véritablement le père des pauvres et des orphelins, le soutien des veuves et l'appui des opprimés. Il se dévouait aussi pour développer la spiritualité de ses diocésains. Il les instruisait et les aidait par ses générosités à construire de nombreuses églises. Car le zèle de Saint-Hubert pour instruire son peuple était infatigable. De plus, comme il y avait encore dans son diocèse un culte d'idoles, notamment dans la Taxandrie, les Ardennes et le Brabant, Saint-Hubert s'y rendit plusieurs fois et réussit à convertir les habitants qui brûlèrent leurs idoles. Est-ce pour tout ce que je viens de rappeler que la popularité de Saint-Hubert fut si grande parmi les grands de son temps et les gens du peuple? Peut-être. Mais il ne faut pas oublier que son éloquence captivait les foules. Il parlait parfois pendant 3 heures consécutives, sans que l'on se lassât de l'entendre. De plus, à la puissance de la parole, il joignait celle des miracles. Ainsi, il chassait les démons, éteignait les incendies et faisait cesser des sécheresses désastreuses en faisant venir des pluies fécondes. Il disait « Le Dieu d'Élie est le nôtre, implorons-le dans la prière et le jeûne. Sa miséricorde fera le reste. » Entre 712 et 722, les documents connus indiquent des dates différentes, mais heureusement, les faits sont authentiques. Hubert posa l'acte le plus important de son épiscopat, la translation du corps de Saint-Lambert de la ville de Maestricht au village de Liège, où ce saint avait été martyrisé. Hubert y transféra également, avec l'approbation du pape, le siège de l'évêché, jetant ainsi les fondements de la future ville de Liège. Liège, alors, n'était que le tout petit bourg de Léodium, arrosé par la Legia, un simple ruisseau d'une longueur d'environ 5 km, confluant avec la Meuse. Aujourd'hui, la Legia est presque entièrement couverte et canalisée. Liège devint donc la ville de Saint-Lambert. La cérémonie du transfert des restes de Saint-Lambert à Liège fut solennelle et Hubert y invita plusieurs évêques, dont Saint Wilbrand. C'est à partir de ce moment que la cité liégeoise devint une grande ville. Parmi les miracles de Saint-Hubert, il faut citer celui qui fut lié à la croissance de la ville de Liège. À cette époque, la Meuse était constamment chargée de bateaux apportant les matériaux de construction de la ville nouvelle. Les eaux ayant baissé considérablement par suite d'une grande sécheresse, les transports durent être interrompus. Saint-Hubert invoqua le ciel et à sa prière, selon la légende, les nuages se formèrent en abondance et des torrents de pluie vinrent grossir le lit du fleuve. Les bateaux purent de nouveau arriver jusqu'à Liège. Saint-Hubert eut le pressentiment de sa fin prochaine. Après avoir consacré une église du Brabant, il retournait à Liège quand, pris d'un accès de fièvre, il dut s'arrêter à Tervuren, dans les environs de Louvain. C'est là qu'il comprit, au cours d'une vision, que sa mort était proche. Le 30 mai 727, il récita le credo et le pater et expira. Le clergé transporta son corps à Liège, au milieu d'une immense foule en larmes. Saint-Hubert est fêté le 3 novembre en Belgique, jour où Floribert l'évêque, qui lui succéda à Liège, porta le 3 novembre 743 ses reliques sur les autels, manifestant ainsi sa canonisation par l'Église. En France, Saint-Hubert est fêté le 30 mai. Saint-Hubert est le grand patron de Liège et des chasseurs. Il est invoqué contre la rage et la peur. Dernière remarque concernant Saint-Hubert. Lorsqu'on fit l'exaltation de ses reliques en 743, on trouva son corps intact, ne portant pas de traces de putréfaction.